Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Ce matin,
on va avoir une prédication un peu culottée. Je crois qu'on entend assez, ça va être culotté. On va voir comment prier avec audace. Et encore, je vous dis, le mot audace est faible par rapport au mot qui est utilisé dans la parabole qui va nous intéresser. Mais bon, commençons déjà par prier avec audace, et après on montrera en crescendo. Imaginez qu'un jour, au cours d'une de vos occupations, quelle qu'elle soit d'ailleurs, Jésus s'approche de vous et entame la conversation. Imaginez encore que vous vous asseyez, que vous partagiez un repas ensemble, c'est bien la moindre des choses, et que vous ne pourriez lui poser qu'une seule question. Que lui demanderiez-vous? Alors, on pourrait poser des questions sur le ciel ou sur nos proches disparus. Nous pourrions lui demander ce que signifie vraiment tel passage un peu obscur de la Bible. Peut-être lui demanderions-nous de quelle théologie se sent plus proche, calviniste, baptiste, pentecôtiste ou libriste, pourquoi pas. Ou alors, quel mode de baptême est le bon, ou s'il faut encore payer la dîme, ou à quoi ressemble le paradis, etc., etc. Je crois que les questions ne manquent pas, elles sont sans fin et nourrissent sans doute l'essentiel de nos prières. Tiens, c'est justement la prière qui est au cœur de notre méditation ce matin. Et nous allons l'examiner au-delà de la prière du Notre Père. Et regardez ce que Jésus nous dit à la suite de cette prière. Car je crois que cette suite nous en apprend beaucoup sur la façon de nous approcher de Dieu par la prière. Un célèbre prédicateur disait que la prière est l'activité la plus élevée de l'âme humaine. Dommage que si peu d'humains prennent la peine de prier. Passons à quelque chose de plus trivial. Selon une enquête IFOP qui date de 2020, 56% des Français sondés assurent connaître la prière de notre Père par cœur, donc en entier. 56% des Français, toutes religions confondues. 30 ans plus tôt, ils étaient 67%. On a un petit peu perdu en 30 ans quand même. Un autre sondage révèle que la moitié des sondés dit ne jamais prier, un quart avoue prier rarement. Seuls 12% affirment prier tous les jours. Là encore, toutes religions confondues. Il ne s'agit pas que des évangéliques ou des protestants, etc. Et lorsqu'on prie, on va demander quels sont les sujets de vos prières. C'est le plus souvent pour demander une aide. Un peu ce que vous avez aussi dit ce matin. Quand on est dans une difficulté, eh bien on prie, on demande de l'aide. C'est aussi pour remercier, pour nourrir sa foi, pour louer Dieu, et aussi pour demander pardon. Cela vous parle-t-il? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces catégories? Se pourrait-il en plus que nos vies chrétiennes n'aient pas l'impact attendu parce que nous n'avons pas une très bonne connexion avec Dieu? Là, peut-être ça parle un peu plus à ceux qui sont habitués à utiliser Internet. Chez moi, par moments, ça rame. J'ai beau m'être abonné à la fibre, des fois, je ne vois pas trop la différence d'un des qu'avant. Je ne sais pas si dans votre vie spirituelle, la fibre est au top, ou si elle rame aussi. Mais peut-être qu'il faut voir avec l'opérateur. L'objectif de la méditation d'aujourd'hui, c'est justement de voir comment renforcer les liens de connexion avec Dieu. D'ailleurs, voyons ce que Luc nous en dit. Un jour, Jésus priait dans un certain lieu, et quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, enseignez-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Si vous êtes un peu familier avec le Nouveau Testament, vous savez que Jésus priait régulièrement. En d'autres termes, il se connectait régulièrement au Père. Et Jean-Baptiste faisait de même. Et d'ailleurs, il ne se gênait pas de prier devant leurs disciples, en public, dehors, et pas juste dans leur chambre, fermée à clé à double tour. Il y a des moments de prière où on est seul à seul, puis d'autres moments de prière, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas public, n'est-ce pas? N'y a-t-il pas là l'exemple d'une incroyable opportunité de montrer à notre entourage ce qu'est Jésus dans nos vies? Durant les 3 années que les disciples ont passé avec Jésus, leur seule demande d'enseignement, c'est celle-là. Enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé comment prêcher, comment enseigner, comment évangéliser, non. Ils veulent juste savoir comment prier, c'est-à-dire comment mieux se connecter avec Dieu. Et Jésus répond simplement et leur dit: quand vous priez, dites: Père, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Ah oui, c'est pas la version classique Louis II. C'est une version en français moderne. Père, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous expose pas à la tentation. À travers cette prière, Jésus nous recommande de commencer par honorer et louer Dieu. Honorer et louer Dieu le Père, c'est le début. C'est le début de toute connexion. Pour bien prendre conscience de qui il est, de ce qu'il est saint, qu'il est majestueux, qu'il est tout puissant. Pour bien recadrer les choses. Qui je suis, qui il est. Nous cherchons son royaume et sa volonté plus que nous-mêmes, plus que notre propre volonté, plus que nos propres petites autorités et pouvoirs terrestres. Nous prions pour nos besoins quotidiens. Attention, ce n'est pas nos envies quotidiennes, hein, ça ne sert à rien à voir. Nos besoins quotidiens. Nous demandons le pardon de nos péchés et la force de pardonner à ceux qui nous font du tort. Enfin, nous demandons au Père la force de résister aux tentations du monde. Voilà résumé en quelques mots la prière du Notre Père. Je ne vais pas m'approfondir sur cette prière, mais je préfère qu'on se concentre sur ce que Jésus nous dit après cette prière, car il y a là une leçon tellement plus culottée. Écoutez cette parabole pour le moins déconcertante, pour ne pas dire insensée. Supposons que l'un d'entre vous est un ami et qu'il aille le trouver chez lui à minuit pour lui dire: « Mon ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Ça vous est arrivé souvent, ça? De débarquer chez quelqu'un, chez un voisin à minuit pour lui demander un petit casse-croûte? Vous oseriez le faire? C'est fou, non? Mais n'oublions pas que cette folie illustre le désir de Dieu d'entendre et d'agir sur nos prières. Pour mieux le comprendre, d'ailleurs, juste un petit rappel socio-culturel de l'époque. Les gens avaient de petites maisons, 1-2 pièces maximum, et toute la famille dormait dans la même chambre, voire même sur la même couche. Et ce n'était pas forcément des matelas avec ma mort de forme. Hein. Je ne sais pas comment ils disaient d'ailleurs. Avec nos habitudes à nous et nos normes d'aujourd'hui, Je ne suis pas certain que cette promiscuité, sans parler du manque de confort, ne soit vraiment à leur goût, enfin à notre goût, même pour une journée, même pour essayer. Bon, peut-être quand on fait du camping. Donc imaginez du camping le plus fruste possible, qu'un camping scout. Voilà, c'est ça tout le temps. Mais bon, ça c'était la façon de vivre à l'époque. Et voilà qu'arrive un voyageur qui semble ne pas s'être annoncé. L'homme le décrit comme un ami. D'ailleurs, le terme qui est utilisé dans l'original, Philéo, ça montre que c'est un ami proche, hein, vraiment un ami de cœur. Et bien que cet ami arrive à l'improviste, il n'est pas question de manquer au devoir d'hospitalité. Surtout dans cette culture-là, il est hors de question de manquer à son devoir d'hospitalité. Oui, mais voilà, les réserves sont vides, il n'y a plus rien à adopter. Alors peut-être que la fourmi aurait dit à la cigale, patati patata, lorsque l'été était venu, il ne fallait pas danser, mais il fallait faire des économies. Je ne sais pas, mais on n'en est pas encore là. Toujours est-il qu'il va voir son voisin. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de commerce de dépannage de nuit. Alors, je ne sais pas si à non, je ne pense pas qu'il y ait commerce de dépannage de nuit, mais j'étais il y a quelques jours avec un groupe d'enfants sur Paris. On a fait une petite visite de Paris by night. Et pas toute la nuit, il y a des commerces ouverts. Hein. Bon, je ne vais rien vous apprendre. Hein. Mais bon, c'est juste pour illustrer. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas non plus de congélateur. On pouvait mettre des réserves. Il n'y avait pas non plus de pain pré-cuit, vous savez, qu'il suffit juste de mettre au four, cuire 10 minutes, et puis c'est bon, quoi. Et il n'y avait pas de poussin. Donc le voilà qui va quérir du pain chez son voisin. Oui, mais sauf qu'ils étaient sans doute pas très loin non plus. Je ne pense pas qu'il ait fait des kilomètres. Donc je me suis permis de dire son voisin. En plus, ami, tu as raison. Donc, c'est pas des inconnus. Hein? Donc, normalement, un ami, on peut compter dessus. C'est ça, hein? C'est vrai. Enfin, la demande est banale, après tout. Tu peux me passer du pain, s'il te plaît, j'en ai plus, j'attends quelqu'un, ouais, etc. Si la demande est banale, par contre, l'heure, elle est beaucoup moins. Et la réponse du voisin ami ou de l'ami voisin ne tarde pas. De l'intérieur de la maison, l'autre lui répond « Ah, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner tes pains. » Basta. L'histoire aurait pu s'arrêter là. L'homme rentre tout penaud chez lui. Il dit à son ami, ben je suis désolé, il n'y a rien à détecter, il va falloir se coucher le ventre vide. D'ailleurs, au fait, pourquoi tu me déranges au milieu de la nuit, j'étais au lit avec mes enfants pour fermer la clé, hein? Bon, mais c'est pas ce qui se passe. Sans doute que le voisin, infortuné, ne veut pas se lever pour ne pas réveiller ses enfants. Vous savez, on est tous dans la même chambre, peut-être sur la même couche, ça fait du bruit, ça remue, etc. Mais de toute façon, avec tout le rafut qu'il y a eu, probablement qu'ils étaient déjà tous réveillés. Et puis, ça ne s'arrête pas là parce que le gars qui est venu pour réclamer, on va le surnommer l'hôte importun, si vous permettez. Mais il a continué à réclamer ses pains, encore et encore. Il a insisté. Alors Jésus ajoute, je vous le dis, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant. Et il lui donnera tout ce dont il a besoin à cause de son insistance effrontée. Insistance effrontée. C'est quoi l'effronterie pour vous? Être effronté, c'est quoi? Vous savez pas? Alors vous êtes innocent, c'est pour ça. L'homme est insistant, et il insiste sans se gêner. C'est un sans-gêne. Et ce n'est pas un simple non qui va l'arrêter. Il insiste avec un tel aplomb, au milieu de la nuit, en décante, que son audace confine à l'effronterie. Petit effronté, va. Ce n'est pas un compliment quand on dit ça, hein. D'ailleurs, c'est ce que confirme le sens du mot grec anaideia. Je vais te chercher loin pour ça. Hein. Anaideia, c'est le mot qui est traduit par insistance effrontée. C'est un verbe qui est utilisé, un mot qui est utilisé une seule fois dans la Bible et qui signifie insolence, audace, impudence, éhonté. Rien que ça. Et d'ailleurs, souvent dans les versions plus calmes, plus neutres, elle s'est traduite par importunité. Oh, mais vous voilà bien important, mon ami. En fait, ça veut dire que t'es insolent, que t'es effronté, que sans honte. Et oui, c'est ça. Et dans la Grèce antique, on aimait bien tout personnifier. Anaideia était personnifiée avec un caractère impitoyable, impudique, une absence de pitié. C'est ainsi qu'on a dépeint cette hôte importun qui réveille hardiment et sans vergogne son voisin pour obtenir ce dont il a besoin. Sans doute que vous me voyez venir, là où je veux en venir. Hein? Ben ouais. À travers cette parabole, Jésus nous enseigne que nous devons aller à Dieu avec la même audace et la même sans-gêne. Car Dieu veut savoir à quel point nous tenons vraiment à ce que nous lui demandons. À quel point tu y tiens ? Tu serais prêt à faire quoi ? Jusqu'où ? Pour obtenir ce dont tu as besoin. Trop souvent, nous faisons une demande rapide. Peut-être même sans trop oser y croire. Après tout, c'est Dieu, on n'osera trop, quoi. Puis on laisse tomber. Enfin, il a entendu, quoi. Je ne vais pas non plus insister, lui casser les oreilles. Une fois, c'est bon, quoi. Quel signal envoyons-nous en faisant cela ? Et après, on s'étonne que nos prières ne soient pas exaucées ? Prier avec insistance et audace. Oui, même moi, je n'ose pas utiliser les mots originels. Prier avec effronterie, prier avec impudence, prier sans gêne, avec insolence, ne signifie pas pour autant que nous allons obtenir tout ce que nous voulons. Le texte précise qu'il sera donné au demandeur tout ce dont il a besoin, oui. Et pas du tout ce dont il a envie. Et oui, ben ça, c'est quand même essentiel. J'en ai envie de choses et d'autres. Vous n'imaginez même pas à quel point je peux en avoir envie. Mais je n'en ai pas forcément besoin. Parfois aussi, nos prières ne sont pas exaucées à notre rythme. Souvent, nous voulons obtenir maintenant ce que nous demandons. Mais le temps de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre. Écoutons d'ailleurs de quelle façon Dieu répond à nos prières. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est toujours dans la suite de Luc, au chapitre 11. Qu'il est difficile, fatigant, voire même frustrant, de devoir prier indéfiniment pour quelque chose que Dieu n'a pas l'air de vouloir accorder. Mais Jésus enseigne à ses disciples la certitude que Dieu répondra à la prière. Tu veux la guérison ? Tu veux la plénitude ? Tu veux un travail ? Tu veux sauver ton couple ? Tu veux bien être pour ton enfant ? Tout cela a du sens pour toi. Pourtant, le silence de Dieu est juste incompréhensible. Alors, il te faut résister à la tentation d'abandonner la prière. Il faut retourner à Dieu, encore et encore, résolument, avec insistance, avec audace, avec aplomb, avec effronterie. Et sans gêne pour obtenir ta réponse. Et n'oublie pas qu'une partie de la prière consiste à écouter. Trop souvent, quand je prie, c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de paroles. Ok, j'ai fait ma prière, j'ai fait ma demande, merci Seigneur, à bientôt. Eh, mais je ne suis pas prêt d'entendre la réponse, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Prier, ce n'est pas seulement réclamer, c'est aussi être à l'écoute de Dieu pour ses réponses à nos requêtes. Et réponses, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être attends, pas tout de suite. Pour nous encourager à prier avec audace, Jésus nous livre trois verbes d'action. Vous avez vu ? Non, on vient encore à 9-10. Il y a trois verbes d'action. Demander, chercher, frapper. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une intensité qui augmente de l'un à l'autre. Demander, bon, ben, j'ai fait ma demande, ok. Chercher, ah là, je me mets en quête de la réponse, hein. Il y a du mouvement là-dedans. Je cherche, je veux chercher, je veux trouver ma réponse. Ça ne vient pas ? C'est culotté, non ? Eh oui, mais c'est un peu comme ça. Pour ceux qui ont eu des enfants, quand ils étaient petits, ou même ils sont ados, et qui veulent quelque chose, savent bien venir vous tanner jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Même si ce n'est pas un besoin, juste une envie. Ils savent faire. En général, c'est quand on est occupé à autre chose de derrière, ok, d'accord, parce que on n'en peut plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que le Seigneur, il écoute parce qu'on lui dit. Mais il y a un peu de ça quand même. Seigneur, je me permets d'insister, je suis désolé, on peut mettre les formes aussi. Hein. Mais il y a une forme de sans-gêne, d'impudence, d'effronterie, d'aller oser traverser la salle du trône, d'aller se précipiter devant le trône, dire « Seigneur, et alors tu m'as obéi ?» Enfin, Jésus nous assure de la bonté de Dieu quand il répond à la prière de ses enfants. Quel père parmi vous donnera-t-il un serpent à son fils s'il lui demande un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf ? Tout mauvais que vous êtes, c'est-à-dire tout pécheur que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Vous savez, je travaille dans la protection de l'enfance. Je travaille dans un foyer où le juge nous a confié des enfants dont les parents ne savaient pas leur donner les bonnes choses dont ils avaient besoin. Avec ma femme, on est aussi famille d'accueil, où on reçoit aussi des enfants ou des ados dont les parents ne savent pas reconnaître leurs besoins ni leur donner les bonnes choses dont ils ont besoin. Ça existe. Heureusement, ce n'est pas la majorité des parents. Il y a des parents défaillants, ok, mais il y a aussi plein de parents qui ne sont pas défaillants, qui sont juste parents comme il faut. Je ne dirais pas normal, parce que ça ne veut rien dire normal. Mais tout parent qui a conscience que ce que c'est que d'être parent subvient aux besoins de son enfant, aux besoins essentiels. Il y a boire, manger, dormir, besoin de sécurité, mais même pas que ça. Il y a plus. Allez, on va aller au parc pour jouer. Allez, tu veux voir un dessin animé, allez, on connaît pour ta part. Hein. Bon. Parfois aussi, il peut nous arriver de dire non. Être un bon parent, c'est pas toujours que dire oui. C'est aussi savoir dire non. Et s'il nous arrive de refuser l'une ou l'autre demande, c'est parce qu'on voit bien que c'est pour son bien. Alors ça, qu'est-ce que les enfants n'aiment pas ? C'est pour ton bien, tu verras, plus tard tu me remercieras. C'est pour ton bien. Eh ouais. Par exemple, quand il veut conduire la voiture à 10 ans, ben on lui dit... Il y en a qui osent dire non quand même. C'est-à-dire que les autres ils disent oui, c'est ça ? Non. Quand il veut conduire la voiture à 10 ans, on lui dit non. Bon, on peut expliquer pourquoi, mais enfin la réponse quand même c'est non. Mais quand il a 15 ans, il peut commencer à conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. La réponse finale, elle est oui, mais il a fallu attendre 5 ans. D'accord ? Et bien, à certains égards, la réponse de Dieu demande un temps d'attente également. Parfois, nous n'obtenons pas ce que nous voulons, mais Jésus a dit que Dieu veut nous donner. Alors, ce n'est pas toujours comme nous le souhaitons, mais Dieu promet de ne jamais nous faire défaut et de toujours nous donner ce qu'il y a de meilleur en fonction de nos besoins, évidemment. À celui qui demande, qui cherche et qui frappe, le Seigneur promet également l'un des dons les plus précieux, le Saint-Esprit. Avec le don de l'Esprit, nous recevons l'amour infini du Père, le sang expiatoire du Fils et la pleine communion avec Dieu. En fin de compte, il vaut bien la peine de prier avec ténacité, avec aplomb, avec... c'est déjà quoi les autres façons de prier ? Avec effronterie, avec audace, sans gêne, n'est-ce pas ? Ce n'était pas dans nos habitudes. Et pourtant, Jésus lui-même nous l'a expliqué. Alors sachons nous engager dans la prière avec à l'esprit l'assurance que Dieu attend de nous, que nous prions avec audace et insistance. Amen.